Donc, pour vous plonger dans cet autre paysage, de ce que Austin nomme, je ne sais pas si parmi vous, certains passent l'agrégation externe, mais Austin parle de sa méthode comme une phénoménologie linguistique. Donc, il ironise sur le caractère pompeux de cette appellation, mais c'est quand même celle qu'il propose. Donc, c'est dans le plaidoyer pour les excuses. Il parle donc de sa description comme une phénoménologie linguistique qui sera attentive, enfin, à la subtilité des distinctions donc, du langage ordinaire qui sont généralement passées sous silence par les philosophes arrogants et qui restent aveugles à la finesse de la sagesse de nos usages. Donc, il y a un caractère beaucoup plus... en un sens, il me semble, anti-métaphysique dans le propos d'Austin. C'est-à-dire que les philosophes traditionnels ont toujours des exemples extrêmement pauvres, ridicules, qui n'ont aucune prise sur le réel. Ils sombrent complètement dans la soif de généralité que Wittgenstein dénonçait. Donc, il y a tout ce caractère. Le philosophe est aussi manipulateur, rusé, le métaphysicien, en fait, pour poser les questions du type existence du monde extérieur ou pour pouvoir ancrer le scepticisme, recourt à différents types de ruses et de procédures malhonnêtes. Donc, si vous voulez, il y a cet aspect qui peut paraître parfois un peu facile ou déplaisant du propos d'Austin et que, pour le coup, Stanley Cavell a sur ce point, vraiment critiqué. Donc, cette phénoménologie linguistique, en quoi consiste-t-elle ? C'est sans doute, donc je viens de vous le dire, dans les excuses, donc le plaidoyer pour les excuses, dont typiquement Austin dit la philosophie traditionnelle n'a absolument pas considéré la richesse du vocabulaire, des usages que nous avons pour présenter des excuses. Et il travaille donc à partir de ce matériau alors qu'il n'a jamais été exploité. Et c'est à l'occasion donc de ce plaidoyer pour les excuses qu'il décrit sa méthode. Donc il dit qu'il va procéder depuis le langage ordinaire en examinant what we should say when, et donc l'important c'est ce que nous devrions dire quand. Donc c'est pas ce que nous disons réellement quand, c'est ce que dans ce contexte là nous serions enclins à formuler. Alors comment va-t-il justifier de s'appuyer sur le langage ordinaire ? Austin, lui, n'hésite pas à recourir massivement aux outils. Les mots sont nos outils, et au minimum, dit-il, nous devons user d'outils propres. Nous devons savoir ce que nous voulons dire et ce que nous ne voulons pas dire, et nous protéger des pièges que le langage a posés. Les mots ne sont pas des choses ou des faits, donc il s'agit, si vous voulez, de montrer certaines inadéquations et de regarder le monde sans œillères. Et donc Frege parlait du trésor des pensées. Austin, lui, parle de notre stock de mots en disant qu'il est extrêmement précieux parce qu'il contient toutes les distinctions que les hommes ont jugé nécessaires de tracer, toutes les connexions qu'ils ont jugé bon de poser. Donc ce que je voulais vous montrer tout à l'heure pour Wittgenstein est évidemment valide pour Austin, c'est-à-dire que souvent on considère que l'un et l'autre, parce qu'on les présente comme des philosophes du langage ordinaire, sont des philosophes du langage. En fait, ils sont des philosophes tout court, c'est-à-dire que la façon dont ils comprennent l'intention, la mémoire, c'est simplement les problèmes que la philosophie a toujours soulevés, a toujours posés. Donc, ce n'est pas simplement des philosophes du langage. Et je crois que cette dénomination de phénoménologie linguistique le montre bien, parce que Austin explique très bien que la description que lui pratique produit une meilleure conscience des mots, mais cette meilleure conscience des mots que nous obtenons sert simplement à affiner et à aiguiser notre perception. Donc, il y a une forme de réalisme chez Austin qui n'est pas du tout masquée. Il écrit ainsi, donc je cite les écrits dans la traduction française, « Nous n'examinons pas seulement les mots, mais aussi les réalités dont nous parlons. Grâce à une conscience aiguisée des mots, nous rendons plus perspicace notre perception des phénomènes. » Donc en fait, les mots sont vraiment présentés comme le matériau qui va nous permettre de de pénétrer la réalité elle-même et déguiser la perception que nous avons d'elle. Alors, je vous cite juste un très bref passage de Cavell. Donc c'est « Dire et vouloir dire », ça a été traduit par « Dire et vouloir dire » en français, mais le texte, le titre initial, c'est « Must we mean what we say ?» Et c'est en fait le premier texte que Cavell a écrit sur les, en grande partie sur les procédures des philosophes du langage ordinaire. Il y a un certain nombre d'essais, c'est une collection assez hétéroclite d'essais. Il y a un essai sur Beckett, il y a un essai sur, sur Kierkegaard. Mais il y a un essai sur lequel je vais m'appuyer à plusieurs reprises qui s'intitule « Austin at Criticism ». C'est très difficile à traduire. Ils l'ont traduit par « Austin critique ». Mais en fait, c'est à la fois Austin en tant qu'il critique les procédures des philosophes traditionnels et moi qui critique les critiques que Austin a adressées à la métaphysique classique. Donc, au fond, c'est pour, si vous voulez, montrer, Cavell montre très bien, je trouve que c'est vraiment un texte intéressant de ce point de vue-là, qu'il est obligé, lui, de reconstruire un dialogue que Austin a rompu entre les philosophes traditionnels et ces nouveaux philosophes qui pratiquent cette méthode révolutionnaire. Donc. Et Cavell explique très bien qu'on peut gommer dans les textes d'Austin tout ce qu'il y a d'anti-métaphysique, tous les termes de critique par lesquels il attaque la philosophie traditionnelle. Et la thèse de l'essai, c'est de montrer que finalement, la description que Austin donne de sa propre pratique est contraire à cette pratique elle-même. C'est-à-dire que si Austin avait mené jusqu'au bout ce que signifie être un philosophe du langage ordinaire, il aurait fait ce que Cavell fait ensuite dans Les Voies de la raison et commence à faire dans Dire et vouloir dire, c'est-à-dire qu'il aurait reconstruit un terrain d'entente entre la philosophie traditionnelle et la philosophie du langage ordinaire. C'est-à-dire que ce que Austin gomme, c'est justement le point sur lequel j'ai essayé d'insister chez Wittgenstein, c'est-à-dire ce qui suscite l'enquête et la description, c'est le problème philosophique lui-même. Donc en présentant la tradition philosophique comme posant des questions absurdes, gratuites, qui n'ont pas lieu d'être, au fond, Austin est lui-même infidèle à la source de la description, parce qu'il faut montrer aux philosophes de la connaissance traditionnelle sous peine de pétition de principe que sa question ou que sa réponse n'a pas de sens. Et tant qu'on n'a pas reconstruit ce terrain d'entente, la philosophie du langage ordinaire est aussi dogmatique et travaille à partir d'exemples, pour reprendre les termes d'Austin, aussi ridicules que Austin lui-même. Donc je vous renvoie ce texte de « Must we mean what we say ?» donc « Austin at Criticism », qui en fait ensuite débouche sur toute la seconde partie des Voies de la raison, dans laquelle Cavell reconstruit le sens qu'il y aurait à douter de l'existence du monde extérieur. Donc je vous lis ce passage qui porte sur la pratique d'Austin, sur son réalisme. On a parfois le sentiment que les distinctions de sens qu'Austin détecte pénètrent les phénomènes qu'elle relate. Un sentiment à la lumière duquel c'est plutôt le philosophe traditionnel qui semble ne parler que de mots. Peut-être de tels faits reviennent-ils seulement à dire que la philosophie du langage ordinaire ne concerne pas le langage, en tout cas pas dans un sens où elle ne concernerait pas aussi le monde. La philosophie du langage ordinaire concerne tout ce que peut concerner le langage ordinaire. Et ça, quand on les pratique, ces deux philosophes, c'est, je pense, une vérité profonde. C'est-à-dire que tout ce que la description touche a une portée. Donc je vous ai donné les exemples de l'intention, l'intentionnalité, la question de l'attente. Au fond, cette méthode descriptive décape des problèmes au lieu de rompre avec elle. Donc si je tente maintenant de résumer, si vous le permettez, les acquis de cette compréhension pragmatique du langage. J'espère que je ne suis pas trop rapide sur Austin, mais je vais m'appuyer de nouveau sur lui pour essayer de vous donner les lignes de force de cette définition du langage. D'abord, dans le retour ou la promotion du langage comme acte, il y a cette idée sur laquelle Austin a énormément insisté, qui peut-être ne vous est pas familière, je ne sais pas, que le langage n'est pas avant tout descriptif. Donc c'est la critique qui est menée dans Quand dire, c'est faire. Et dans l'entretien à la BBC, que je vous ai reproduit sur l'exemplier, dans lequel il définit les performatifs, il revient donc sur ce qu'il nomme l'illusion descriptiviste. Donc c'est là, là, je pense que c'est vraiment crucial pour ces deux journées. C'est paragraphe 15, citation 15. Nous n'avons pas à remonter bien loin dans l'histoire de la philosophie pour trouver des philosophes tenant acquis plus ou moins comme une évidence que l'unique fonction intéressante de tout énoncé, est d'être vrai ou pire faux. Bien sûr, ils ont toujours su qu'il y a d'autres types de choses que nous disons, des choses comme des impératifs, les expressions de souhait, les exclamations, dont certaines ont même été l'objet de classification par les grammairiens, bien qu'il n'ait pas toujours été évident de les distinguer les unes des autres. Mais les philosophes ont continué à considérer que la seule chose intéressante était les énoncés qui rapportent des faits ou qui décrivent des situations de façon vraie ou fausse. Donc, c'est la critique donc de l'illusion descriptiviste. Donc, vous voyez, d'avoir finalement favorisé un seul modèle d'énoncé descriptif, qui a une prétention à la vérité, par opposition justement avec les impératifs, les souhaits, les exclamations. Et c'est toujours en commençant par condamner cette illusion descriptiviste que Austin introduit les performatifs. Donc, je vous lis la suite de l'entretien. Je veux parler d'un type d'énoncé qui ressemble à des affirmations et qui grammaticalement serait, je suppose, classé comme des affirmations, qui ne sont pas des non-sens et qui pourtant ne sont ni vrais ni faux. Donc, vous voyez que les performatifs, ils sont d'abord présentés comme ce qui met en échec cette promotion d'une fonction descriptive du langage, d'un énoncé qui serait, comme il dit, vrai ou pire faux, mais qui en tout cas aurait nécessairement une prétention véritative. Donc, ce ne seront pas des énoncés contenant ces constructions verbales curieuses que sont les auxiliaires modaux exprimant la possibilité conditionnelle, might, ou la capacité conditionnelle, could. Ce seront des énoncés irréprochables, formés avec des verbes parfaitement ordinaires, au présent et à la première personne du singulier voix active. Et nous verrons pourtant tout de suite qu'ils ne peuvent absolument pas être vrais ou faux. De plus, si une personne formule un énoncé de ce type, nous devrions dire qu'elle fait quelque chose plutôt qu'elle ne dit simplement quelque chose. Cela peut sembler un peu étrange. Donc, suit l'exemple ultra canonique de performatif, hein, la cérémonie du mariage, oui, je le veux. Supposons que je vous marche sur les pieds et dise excusez-moi. Ou supposons que j'ai une bouteille de champagne à la main et dise je baptise ce bateau le Queen Elizabeth. Dans tous ces cas, hein, il serait absurde de considérer les choses que je dis comme le compte rendu de la réalisation de l'action, qui est incontestablement réalisée, l'action consistant à parier, à baptiser, à s'excuser. Nous devrions plutôt dire qu'en disant ce que je fais, j'accomplis véritablement l'action. Et l'exemple canonique que reprendra Searle, c'est la promesse, donc la parole donnée. Par exemple, je promets d'être là demain. On en très facilement à croire que l'énoncé n'est, donc ça c'est la conception qu'il critique, hein, que l'énoncé n'est que le signe extérieur et visible, c'est-à-dire verbal, de l'accomplissement d'un certain acte intérieur et spirituel. Et l'on trouve bien souvent cette conception exprimée dans la littérature classique. Pensons au cas de l'Hippolyte de Ripide qui dit « Ma langue a juré, mais pas mon cœur ». Peut-être devrait-ce être l'esprit ou l'âme plutôt que le cœur, mais en tout cas une sorte d'artiste dans les coulisses. Or, ce type d'exemple nous montre bien que si nous succombons à l'idée que de tels énoncés sont des descriptions vraies ou fausses, l'accomplissement d'actes intérieurs et spirituels, nous offrons une échappatoire aux parjures, menteurs et autres bigames, ainsi qu'à l'excessive solennité dans ce domaine n'a pas que des avantages. Ma citation est un peu bancale. Il est peut-être mieux d'en rester à la vieille formule selon laquelle notre parole nous engage. Alors, ça, c'est vraiment de nouveau le slogan qu'on a extrait de Quand dire, c'est faire et de cet entretien. En anglais, c'est Our word is our bond. Donc, notre parole, our word, et notre engagement, notre lien, notre. Donc, vous voyez qu'il conteste ainsi la priorité qui est donnée à l'analyse logique de la langue et cet usage descriptif qui a été indûment valorisé par la tradition philosophique selon lui. Donc, il faut distinguer désormais pour cette tradition pragmatique et à la suite de l'héritage d'Austin, la phrase en tant qu'elle est une entité grammaticale et l'énoncé qui est fait au moyen de la phrase. Et cet énoncé, lui, sera nécessairement contextuellement situé. Et la phrase, elle, devra être considérée en contexte. Donc vous voyez qu'il souligne également la diversité des emplois discursifs des phrases. Wittgenstein, de la même façon, paragraphe 23 des recherches, vous donne toute une liste justement de jeux de langage dans lequel cette diversité des fonctions apparaît également. Et dans les deux cas, les listes ne sont pas closes, c'est-à-dire que tous ces usages qui ne sont pas descriptifs du langage nous offrent une liste non exhaustive des possibilités que le langage humain nous offre. La différence, sans doute, de ce point de vue entre Austin et Wittgenstein, c'est que Austin insiste plus encore que Wittgenstein sur la fonction sociale de ses énoncés, et en particulier sur le fait que ces actes ne peuvent se réaliser que relativement à une institution humaine. Donc ce sont des actes, les actes de parole sont des actes nécessairement institutionnels. On ne peut les décrire sans faire référence à une convention humaine. Donc, si je dis « je vous déclare unie par les liens du mariage, mais que je ne suis pas institutionnellement accréditée à prononcer cet énoncé », évidemment, dans ce cas-là, les liens du mariage n'existent pas. Je ne produis absolument aucun lien et mon acte est ce que Austin appelle malheureux. Donc c'est pourquoi il substitue, dès la seconde conférence de Cantière-Séfer, les conditions de félicité et d'infélicité aux conditions de vérité qui, elles, continuent à régir les usages descriptifs du langage. Donc vous voyez que quand je promets, par exemple, ce que je fais dépend de la sincérité de mon propos, mais aussi du succès et de l'échec de ce que je vais faire dans une situation et dans des circonstances appropriées ou non à réaliser ma promesse. Donc, vous connaissez sans doute la théorie de la performativité, qui pour le coup, on peut la tirer cette fois-ci du côté de la théorie. Austin explique que le performatif n'a pas besoin d'être explicite pour performer. Benveniste, dans l'article que vous avez sous les yeux, lui, il ne parle pas de performatif ou de performance, mais d'accomplissement. Mais il a effectivement la même idée qu'Austin. Et donc, Austin insiste sur le fait qu'il y a des performatifs explicites, comme je te promets, mais qu'il y a aussi toute une série de performatifs implicites qui peuvent correspondre à une promesse sans que le terme de promettre soit employé. Vous pouvez dire par chien, simplement, pour reprendre un exemple simple qu'il utilise dans Candir, c'est faire. Par chien, l'usage de ce petit mot en contexte peut vouloir dire de façon performative « je vous avertis que le chien va vous attaquer ». Donc il peut y avoir un usage elliptique. Le performatif n'a pas besoin d'être explicite. Et là, vous voyez bien que sa position, elle est fortement contextualiste, c'est-à-dire que le sens de chien dépend du contexte dans lequel il est situé. Donc, toute cette... c'est ce que vous souvenez, Benveniste critiquait justement chez Austin, l'idée que si vous poussez dans ces derniers retranchements cette dimension performative et contextuelle de la parole, finalement vous allez arriver à l'idée qu'il n'y a pas de limite tranchée, hors contexte en tout cas, entre les performatifs et les constatifs. Et donc c'est ce que Benveniste refuse dans le texte que vous avez sous les yeux. Il refuse cette idée qu'il n'y aurait pas de critères fixes pour distinguer nettement entre les performatifs et les constatifs. Donc, si vous voulez, pour Benveniste, c'est la limite de la pratique d'Austin, le fait qu'il ne veut pas finalement théoriser de façon suffisamment formelle le point d'aboutissement de sa découverte, puisqu'il la remet en cause, et comme je le disais en commençant, il insiste davantage sur l'infélicité, les ratages, plutôt que sur la dimension d'agir des actes de parole. Donc vous savez aussi sans doute qu'à la fin des conférences Candir-Séfer, au lieu d'employer cette dualité performative-constatif, Austin va s'appuyer sur la distinction entre les actes locutoires, les actes illocutoires, qui, eux, vont désigner la performativité, et les actes perlocutoires. Donc, les actes locutoires, là, on se place au niveau de ce qui est dit. C'est l'acte de dire, hein, qui consiste en un acte de référence. L'actilocutoire, c'est ce qu'on accomplit en disant quelque chose, ce qu'on fait en disant. Et c'est l'autre sens de notre parole et notre engagement, hein, Our Word is Our Bond, c'est qu'on est toujours responsable de l'illocution. Et l'acte d'illocution est toujours conventionnel. Et il ne faut pas, évidemment, se représenter l'illocution comme un ajout. Ce n'est pas une force qui s'ajoute à l'acte locutoire. Et enfin, l'acte perlocutoire, les actes perlocutoires, ce qui relève de ce qu'on a dit et des conséquences de ce qu'on a dit. Pour rendre peut-être l'exemple plus concret, j'avais relevé pour vous un passage d'un article de Cavell ce recueil d'articles qui commence par une belle réflexion sur Fred Astaire, Philosophie le jour d'après-demain. Et donc, c'est un texte intitulé « Énonciation performative, énonciation passionnée », qui, je crois, était d'abord paru dans un volume chez Gallimard qui s'intitulait « Quelles catégories pour le XXIe siècle ?» qui reprenait toutes les catégories d'Aristote. C'est un colloque qui avait lieu à Beaubourg. Et donc, Cavell s'était chargé de passion. Et donc, il y avait toutes les catégories. Je crois que Descombes s'était occupé de la relation. Jocelyn Benoît s'était occupé de... peut-être pas de la qualité. Enfin, donc, il y avait toutes les catégories aristotéliciennes. Et Cavell, donc, revenait sur la passion. Et dans cet article, « Énonciation performative, énonciation passionnée », je vous lis simplement pour que vous compreniez bien la distinction des trois... Les trois actes. Accomplir un acte locutoire, c'est en général accomplir un acte illocutoire. Par exemple, poser une question, répondre à une question, donner une information. De plus, accomplir un acte locutoire et en cela un acte illocutoire, c'est peut-être produire un troisième acte, un acte qui provoque certains effets sur les sentiments, les pensées, les actes de l'auditoire ou de celui qui parle ou d'autres personnes encore. Et l'on peut parler dans le dessin, l'intention, le propos de susciter ces effets. Donc là, on est dans le perlocutoire. Le tressaillant de ces actes, les perlocutoires, est qu'ils ne sont pas illocutoires. Autrement dit, qu'ils ne sont pas de ces actes qu'Austin associe à ce qu'il appelle les associations performatives. Donc, d'où l'exemple qui m'intéresse, qui est, je crois, très clair. Dire « je vous préviens », locutoire, c'est vous prévenir, illocutoire. Et cela pourra en outre, en tant que perlocutoire, vous alarmer, vous exaspérer ou vous intimider. Toutes choses qui ne sont pas des illocutions. Tout comme cela pourra aussi vous convaincre, vous persuader. C'est-à-dire qu'énoncer « je vous alarme, je vous exaspère, je vous intimide ou je vous persuade » ne reviendrait pas en soi à vous alarmer, à vous exaspérer, à vous intimider ou à vous persuader. Pour autant, en effet, il s'agit là, en leur état, de locutions intelligibles en français. Donc voyez l'exemple « je vous préviens » est très clair. On voit bien du coup les trois dimensions, locutoire, illocutoire, perlocutoire. Et comment il ne faut pas justement concevoir l'illocutoire comme un ajout d'une dimension à la première. Et je trouve que l'exemple met très bien en lumière la différence entre illocutoire et perlocutoire. Alors, donc, si vous voulez, là, on a traversé le premier trait, je crois, de ce qu'on pourrait appeler pompeusement le paradigme pragmatique, c'est-à-dire critique de l'illusion descriptiviste et... mise en lumière de ces aspects des actes de parole qui, à la fois, mettent en question le modèle unitaire de la description, du langage comme description du monde, et en même temps qui insistent sur ces différents aspects de la parole impérative, etc. Le deuxième trait, je vous l'ai dit déjà, du paradigme pragmatique, je crois que c'est justement l'inscription de la parole et du discours dans un contexte déterminé, des circonstances particulières. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas donner le sens d'un mot, d'une phrase, d'un geste, d'une part sans l'inscription dans un contexte, et d'autre part sans son inscription dans des circonstances ou des occasions particulières. Et le dernier trait de ce paradigme, c'est que vous le voyez, la parole est réinscrite dans un champ de pratique sociale. Et là, on pourrait faire une distinction plus fine entre Austin, Searle et Wittgenstein, en montrant que Austin et Searle ont une compréhension du contexte et des circonstances comme circonstances appropriées. Donc il y a un sens beaucoup plus normatif au sens où le sens social des pratiques est beaucoup plus institutionnalisé chez Austin et chez Searle que chez Wittgenstein. Chez Wittgenstein, le contexte est beaucoup plus souple. Et le sens est beaucoup moins dépendant de pratiques instituées. Donc si vous voulez, ces trois traits, critique de l'illusion descriptiviste, contextualisme et réinscription de la parole dans un champ de pratique sociale, ça a été en fait, je crois, l'acquis de cette tradition et qui a été en plus extrêmement balisé en France par tous les débats qui ont concerné, et pas simplement à l'intérieur de la philosophie, la question du suivi de la règle et la critique du langage privé, puisque la critique du langage privé et cette dimension intérieure de la promesse que soulignait Austin réinsister sur la dimension publique des significations et la question de la règle, du suivi de la règle, qui est toute la séquence dans les recherches philosophiques de Wittgenstein qui se situe des paragraphes 90 à l'argument du langage privé, 143 si je ne me trompe pas, se préoccupe justement de ce que nous faisons quand nous apprenons et nous suivons la règle. Et donc tous les débats qui ont porté sur le suivi de la règle revenaient sur ce que je vous avais annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire la façon dont on va concevoir cette articulation de la normativité vitale et sociale en renonçant à une lecture conventionnaliste ou consensuelle de l'accord. Donc en fait, les Français en particulier, mais un certain nombre de lecteurs de Wittgenstein aux États-Unis et en Angleterre, ont vraiment voulu distinguer ce que disait Wittgenstein des accords sociaux sur lesquels nous fondons, la dimension publique de la règle, d'une interprétation qui a été appelée Kripkenstein, donc l'interprétation que Kripke avait donnée dans ce petit livre qui a été traduit au seuil au début des années 90, Règles et langages privés. Donc pour Kripke, le sens des accords était compris de façon consensuelle, et donc c'était une lecture, si vous voulez, conformiste de la règle. Et contre cette lecture consensuelle et conformiste, il y a toute une série de travaux, de la force de la règle de Bouveresse jusqu'à des travaux très récents de sociologues de l'EHESS qui ont voulu montrer que la normativité dont il était question n'était pas purement conventionnelle. Et donc, de ce point de vue-là, creuser l'écart entre les actes de langage, de parole d'Austin et de Searle et ce que Wittgenstein, lui, nous proposait en termes pour penser la normativité sociale en particulier. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait qu'il nous dit bien que l'accord n'est pas un consensus et que c'est un accord dans les jugements. Alors toute l'attention des lecteurs s'est concentrée sur ce que signifiait cette Übereinstimmung, avec en plus une métaphore de la voix, une métaphore musicale, cet accord dans les jugements et pas sur des opinions. Alors, ça, c'est le paradigme pragmatique tel qu'à mon avis, il est désormais institué, tel qu'il est acquis. La dimension sur laquelle je voulais insister, qui est encore dans une très large mesure en friche, c'est ce que cette tradition peut nous aider à penser pour une refonte du concept de sujet et pour repenser aujourd'hui la connaissance de soi. Alors, justement, on peut repartir, je crois, d'Austin et du texte de Cavell dont je vous parlais à l'instant, là, énonciation performative, énonciation passionnée. Au fond, Austin, et Cavell n'est pas le seul à lui avoir adressé cette critique, Austin serait resté en deçà de sa propre méthode ou de sa propre pratique parce qu'il y aurait une dimension dans qu'en dire c'est faire, donc dans cette pragmatique. Il y aurait une méfiance suspecte à l'égard de la passivité. présente dans nos pratiques, c'est-à-dire une méfiance de principe à l'endroit de la passion. Et Cavell insiste sur le fait que le rôle de la passion a toujours été minimisé dans la philosophie analytique et dans ce courant dissident de la philosophie analytique qu'est la philosophie du langage ordinaire d'Austin. Donc le travail de Cavell là-dessus est assez fin, en tout cas dans cet article-là. Il épingle en fait tous les passages des conférences « How to do things with words », notamment la page 97 dans la traduction française, où Austin parle d'éprouver un désir, d'éprouver une émotion en termes de réponse appropriée. Et Cavell montre que, du coup, dans cette approche des actes de parole chez Austin, il y a une dichotomie qui subsiste et qu'il faut remettre en question entre la question de l'action, de l'acte, et la question de l'expression du désir. Or, il reproche donc à Austin d'être resté sourd à cette dimension expressive du langage. Donc, si vous voulez, pour hériter d'Austin, il faudrait pousser dans ses dernières extrémités son analyse de la performativité et aller jusqu'à inclure dans la parole une dimension de passivité que volontairement, ou en tout cas peut-être inconsciemment, Austin réduit ou assourdit ou tait. Donc la critique du Cavell, c'est vraiment celle-là. Au fond, le modèle de parole que nous propose Austin resterait celui dans les termes que j'ai utilisés au début, resterait celui d'une parole efficace. Donc bien sûr, il y a toute une réflexion sur ce qui peut rater dans notre parole, mais il n'y a jamais de dimension de passivité. Qui soit reconnu à nos efforts d'expression.
Excusez-moi. Et la contextualisation.
Par rapport à la passion, vous voulez dire ? Même si on. Austin parle souvent des émotions, des sentiments des acteurs, par exemple. Mais finalement, l'accent qu'il fait porter, en tout cas le sens, des énonciations ne prend pas en compte cette partie qui lui semble, je pense, trop irrationnelle, qui est émotive, purement réactive de ce qui est pourtant une parole. Et c'est justement l'objection que lui adresse Cavell. Vous voyez, une partie qui... Il y a un certain nombre de... nous ne sommes pas maîtres de ce que nous disons. Et ça, Austin le montre très bien en insistant sur toutes les dimensions malheureuses de la parole. Et c'est ce que lui reproche en particulier Benveniste. Mais c'est une chose de dire « je ne contrôle pas le pouvoir que j'ai sur mes mots parce que j'en suis toujours dépossédée, justement de façon contextuelle ou dans certaines circonstances », c'en est une autre de reconnaître qu'à la source ou à la racine même de la parole, il y a aussi une dimension empathique qui est trop passive, pas trop contingente, mais qui est trop passive pour qu'Austin veuille la reconnaître. Justement parce qu'il, si vous voulez, il force le trait pour dire « arrêtez de concevoir le langage comme descriptif, soyez attentif à ce qu'il fait ». Et Cavell dit « c'est plus compliqué ». Dans ce que nous disons, il y a aussi des dimensions qui sont pas simplement, qui demandent pas simplement d'être inscrites dans des circonstances pour être validées ou invalidées, mais il y a aussi une passivité que des mots, enfin, de la bouche qui dit je, c'est-à-dire de la relation que nous entretenons avec nos mots. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce que Cavell retrouve chez Wittgenstein, qui est absent chez Austin, c'est l'idée que il y aurait une forme de dépossession possible, y compris pour un individu et surtout pour un individu solitaire. C'est pour ça que ce que Cavell fait à partir des recherches de Wittgenstein, c'est qu'il va nous dire que vous avez un modèle suractif, si je puis caricaturer, d'Austin pour l'acte de parole, alors que Wittgenstein, lui, commence par Augustin, donc par un genre littéraire et religieux qui est celui de la confession, Et donc, dès lors, la description philosophique, elle aura toujours à voir avec un apport à la conscience de soi, même quand c'est la conscience de soi d'une époque. Et voyez bien, du coup, que... alors, ce n'est pas évident de voir chez Cavell comment expression et désir sont entrelacés, mais dans la façon dont il travaille sur la méthode d'Austin et sur la méthode de Wittgenstein, pour en faire sortir et en révéler les impensés, si on peut dire, il y a un mélange d'une méthode nietzschéenne et freudienne à la fois. Alors, qu'est-ce que Austin ne pense pas ou ne veut pas penser de la passivité et du contrôle que nous n'avons pas déjà de nous à nous sur nos mots. Et toute la réflexion de est-ce que nous devons dire vouloir dire ce que nous disons, c'est ça. C'est de proposer une compréhension du vouloir dire qui est beaucoup plus passive que ces formes de contextualisme. Et ça, c'est une dimension qui est à creuser, évidemment, qui est intéressante d'un point de vue philosophique. Alors, deuxième chantier, c'est le chantier donc, qui a été ouvert par Benveniste, et j'en viens enfin à l'article de la subjectivité dans le langage. Donc pourquoi, si vous voulez, cet article des problèmes linguistiques généraux a été considéré comme fondateur par un certain nombre de philosophes, notamment analytiques contemporains. Alors je pense à Stéphane Chauvier, je pense aussi à Descombes, parce que la référence à ce texte est omniprésente hein, dans les deux essais que j'avais cités en commençant, dire je, et c'est sur la subjectivité. Je continue à trouver extrêmement intéressant comme proposition philosophique, comme essai philosophique. Et puis, chez Descombes, le texte de Benveniste est présent dans le complément de sujet. Mais pour ces deux derniers livres, je pense qu'on peut opposer donc celui qui vient de sortir, Le Parler de Soi, qui propose toute une histoire, une philosophie de l'égotisme, où donc du coup le fil directeur, le fil rouge de l'ensemble de ses essais reste celui de la première personne. D'ailleurs, je vous renvoie, puisque je pense qu'on n'aura pas le temps ça d'en discuter, à un article que moi je trouve vraiment extrêmement virtuose, qui est un des plus importants, je trouve, que Descombes a écrit, qui s'intitule, qui était d'abord paru dans un volume sur phénoménologie et sociologie, qui s'intitule « Hériter de vous-même ». Et c'est un article de Descombes extrêmement intéressant sur la première et la seconde personne, dans lequel en fait il répond à soi-même comme un autre de Ricoeur, et où il explique ce qui est à mon avis un des fondements de la lecture que lui propose de Wittgenstein en l'ancrant dans la tradition sociologique française. Il explique vraiment bien pourquoi, selon lui, une relation sociale est irréductible à une relation intersubjective. C'est-à-dire que lui, ce que lui permet de penser Wittgenstein, c'est un « nous » qui est défini socialement, sans faire appel à toute cette école philosophique dérivée de la troisième critique de Kant, où finalement, on avait un modèle de la communicabilité pour penser le « nous », mais qui formulait un « nous » qui était toujours la rencontre de deux subjectivités. Descombes, dans cet article, montre très bien qu'une relation sociale est donc irréductible à une relation intersubjective, au sens où ce qui définit une relation comme sociale, c'est la complémentarité des rôles sociaux, et pas la quête de reconnaissance ou de le face-à-face des deux consciences dans l'image hegélienne avec laquelle on continue de réfléchir pour penser l'intersubjectivité. Donc je vous renvoie à ce texte qui, je pense, est particulièrement important. Et donc, pour les derniers Descombes, on a le parler de soi, où le fil directeur est vraiment celle de l'autorité en première personne, alors que les embarras de l'identité travaillaient beaucoup plus sur le nous, en s'appuyant de nouveau sur la structure des pronoms personnels de Benveniste. Donc, de la subjectivité dans le langage, donc ce texte extrêmement efficace de Benveniste, extrêmement économique, donc vous le savez, Benveniste souligne le processus de subjectivation accompli dans le langage. Il accomplit ce renversement dont je parlais en commençant, hein, des catégories linguistiques sur les catégories de la pensée. Pour Benveniste, c'est dans et par le langage que l'homme se constitue comme sujet. C'est la fameuse formule hein, « et ego qui dit ego ». Donc, très nettement, le texte est dirigé contre une approche phénoménologique de l'ego constituant, Pour Benveniste, c'est seulement dans le langage que le sujet peut advenir. La subjectivité est définie comme la capacité que le locuteur a de se poser comme sujet. Et cette capacité, au fond, si on regarde de près le texte de Benveniste, c'est pas celle de l'homme, c'est pas tant celle de l'homme que celle du langage. Donc finalement, la subjectivité, c'est assez contre-intuitif si on pousse les idées de Benveniste dans le dernier retranchement. La subjectivité, finalement, c'est quelque chose qui arrive au langage, ce par quoi le langage participe de l'être. Et c'est donc en définissant les pronoms que Benveniste précise le mode d'existence du sujet en tant qu'il est cette réalité du discours. Et le pronom, dit-il, ne renvoie ni à un concept ni à un individu. Donc, de son identité, le sujet témoigne en disant « je ». Et en disant « je », il convertit le langage en discours et son identité au sens plein devient possible. Donc en fait, j'ai insisté sur la subjectivation parce que l'identité du sujet n'est jamais donnée. Elle est toujours la résultante d'un processus d'identification. Et vous savez que cette identité qui n'est jamais donnée, qui est toujours la résultante de ce processus d'identification, Benveniste la définit par la polarité du « je tue ». Qu'il appelle la corrélation de subjectivité. Je le cite, « Moi qui dis je pose un tu qui dit je et me dit tu ». Et donc dans cette polarité, dans cette relation de polarité, il y a à la fois la réversibilité de la relation et puis une asymétrie. Il y a toujours, dit-il, une transcendance du je sur le tu. Alors, donc ce texte de Benveniste est extrêmement riche. Dans les essais ou les élaborations philosophiques qui sont remarquables, je trouve, vous avez donc les textes de Descombes dont j'ai déjà parlé, mais aussi ce très très beau texte de Jean-Claude Milner que vous connaissez peut-être dans Le périple structural qui s'appelle Ibat obscurus, et qui travaille justement sur l'usage politique du « nous » chez Benveniste. Vous ne connaissez pas ce texte de Milner. C'est un très très beau texte parce qu'il s'appuie sur un recueil d'avant-guerre de Benveniste dans lequel Benveniste avait inventé un vers homérique, puisque Homer, quand il exprime le pronom personnel « nous », le « nous » n'a pas besoin d'être explicité en grec. Et donc, ça met tout de suite la puce à l'oreille de Milner, qui se dit « mais est-ce que ce vers homérique est bien authentique ?» Et il découvre en fait que Benveniste a inventé de toute pièce le vers d'Homère. Et il analyse très bien le sens de cette référence au « nous » dans le contexte qui était celui du « nous » des Juifs, qui avait été contraint de signer la lettre, vous savez, « nous, Israélites de France ». Et donc ce texte de Milner met l'accent sur la fin du texte que vous avez sous les yeux, qui pourrait être compris justement comme non pas en fait une forme d'apolitisme, mais au contraire une conscience que son nous et que sa parole politique ne peut pas porter. C'est C'est pourtant en discussion avec Austin, je vais vous le retrouver. Et ça ne renvoie pas du tout aux circonstances appropriées de la parole. Bon, je vais vous le retrouver après, parce que là, je ne trouve pas le passage qui est parmi Milner. Et à la suite de l'article de Milner, Bruno Carcenti a aussi écrit un très beau texte qui n'est pas facile à trouver, qui s'appelle « Maranisme », dans lequel il revient justement sur l'usage du « nous », sur ce que Milner nomme la faute politique de la langue. Donc, voilà pour les usages. Évidemment, ce qui intéresse Milner et Descombes et Carcenti dans ce que dit Benveniste sur le « nous », c'est que le nous, c'est toujours un je élargi. Donc, il y a l'autorité de la première personne du pluriel doit être analysée toujours sur le modèle de celle de la première du singulier, sauf qu'il est constitutif du nous que le porte-parole puisse usurper justement le consentement des autres et la représentativité qu'il incarne. En tout cas, en gros, si j'essaye de, pour pas être trop longue, de schématiser à l'extrême les modèles qui sont en train d'émerger dans la réflexion sur la connaissance de soi et sur le parler de soi, vous avez compris qu'il y a un modèle qui vient de Cavell, j'en ai vraiment pour 2 minutes, hein, qui du coup insiste sur la réappropriation nécessaire par le sujet de ses mots. Et dans ce cas-là, au lieu de destituer le sujet, Wittgenstein nous apprendrait à repenser l'entrelacement du « je » et du « nous » et la communauté comme un accord des voix. Et vous avez compris du coup que dans cette façon de lire le sujet, il y a une insistance beaucoup plus grande sur la passivité, sur l'assujettissement du sujet, sur sa non-maîtrise, sa non-souveraineté, etc. Il y a une deuxième lecture qui paraît largement opposée à cette interprétation cavellienne du texte. C'est la lecture de Descombes, qui propose du coup de concevoir le sujet comme agent et qui définit le sujet de l'action avant tout comme agent intentionnel. Et donc là, la lecture, c'est, si vous voulez, un Wittgenstein hegelianisé. Au sens de l'esprit objectif hegelien. Là, il y a une lecture du nous qui est beaucoup plus proche de ce que, par exemple, Axel Honneth fait dans son dernier livre sur le dire nous. Et à mi-chemin de ces... Donc, vous voyez que je force le trait, mais au fond, l'opposition est quand même assez nettement tracée. Il y a vraiment une lecture qui fait de Wittgenstein... et donc de Austin tel que nous devons en hériter, donc en comblant ses lacunes, ses faiblesses, vraiment une philosophie de la subjectivité où la subjectivité est pensée de façon sceptique comme voix, et puis une lecture qui s'oppose complètement à cette lecture sceptique, qui est celle de Descombes, où le concept de sujet dont nous avons besoin, c'est le complément d'agent, donc c'est un agent, et un agent intentionnel, et il me semble que... Le texte auquel vous avez renvoyé au tout début, celui de Richard Moran, Autorité et aliénation, offre non pas un compromis, mais une troisième voie qui revient sur le concept qui est extrêmement travaillé dans le monde anglo-saxon d'autorité en première personne pour critiquer une compréhension de spectateur que l'on pourrait avoir à l'égard de sa propre intériorité et qui propose du coup une compréhension de la conscience de soi comme agent et comme agent qui délibère à propos de un agent délibératif, si vous voulez. Donc il y a une critique d'une compréhension de soi désengagée, désinvestie, qui est souvent considérée dans la littérature comme cartésienne. Bon, c'est du cartésianisme plus que du Descartes. Hein. Et ce modèle donc d'un agent qui n'est plus spectateur ou témoin impartial de lui-même, mais un modèle de la conscience de soi qui n'est plus dans la perspective non, du spectateur. Donc je vous renvoie à ce texte qui, du coup, insiste sur la dimension donc, d'aliénation. Ça a été traduit en français. En anglais, c'était « estrangement ». Et il lit Wittgenstein avec Sartre. Donc il articule l'étrangèreté à soi de la mauvaise foi. Pour justement proposer un modèle de conscience de soi qui est plus complexe, je pense, que les deux précédents sur lesquels, enfin, auxquels je vous ai trop rapidement renvoyé. Alors, je pense que je vais devoir m'arrêter là. Moi, ce que j'aurais voulu vous proposer de plus personnel à partir de cette refonte du sujet, ça aurait été une réflexion sur ce que j'avais annoncé, là, la reconnaissance de l'humain. Comment lire les derniers textes de la philosophie de la subjectivité et en particulier la question de l'expressivité dans le cadre d'une réflexion sur ce que c'est que reconnaître ou dénier l'humanité de quelqu'un. Mais je peux très bien, si vous le voulez, vous l'adresser par mail pour ne pas vous mettre en retard les uns et les autres, puisque j'ai déjà, je crois, trop parlé.
Non.
Je ne sais pas, il est 5 heures, donc j'ai pensé que j'avais pas trop de liberté de dépasser.
Bon, ben, il y aura peut-être des questions dessus. En tout cas, merci déjà pour cette partie. On peut quand même prendre quelques questions.
Oui, il n'y a pas de vigile au lycée.
Oui, voilà.
Il est parmi nous, donc.
C'est Richard Moran, M-O-R-A-N. Et il s'est mis au français parce qu'il voulait absolument lire Proust dans le texte. Donc il est assez souvent en France. Il est professeur à Harvard, mais il est assez souvent en France au printemps. Parce que ça lui permet de continuer sa lecture de la recherche. Et il va faire paraître en anglais un livre, parce que ça c'est vraiment une référence extrêmement classique maintenant dans la littérature sur la connaissance de soi dans le monde anglo-saxon. Et il va faire paraître un nouveau livre sur l'intersubjectivité justement, qui traitera beaucoup de ces questions d'expression et d'intersubjectivité. Et là, ce ne sera pas Sartre et Wittgenstein, ce sera plutôt Merleau-Ponty et Wittgenstein. Alors, vous voyez qu'on en parlait avec Sylvain ce midi. Tous ces modèles qui sont en train de s'élaborer, qui continuent de se construire, ils répondent, enfin en tout cas, c'est très clair chez Descombes, puisque Ricoeur était son professeur, ils répondent à la construction de soi-même comme un autre. C'est-à-dire, ils essayent de montrer qu'on peut proposer une compréhension de la relation à soi qui ne serait pas à comprendre sous un prisme narratif. Ou... Donc, qui font droit, dans chacun des cas, à une part d'aliénation possible du rapport à soi. Mais ce qui est intéressant et nouveau, je pense, pour un lecteur français, c'est que l'analyse part justement des marqueurs de subjectivité et d'expériences de pensée qui vont à chaque fois, en tout cas chez Wittgenstein, nous faire comprendre la relation particulière que nous avons à nos propres mots sans passer par une caractérisation de l'introspection ou de la connaissance dans les termes justement d'une détection interne ou d'un œil intérieur ou de ces modèles qui ont été critiqués et qui étaient l'objet de la critique de Wittgenstein dans le mythe de l'intériorité, justement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux temps de la réception, si on caricature vraiment. Il y a eu tout le temps Bouveresse et les premiers textes de Descombes qui allaient complètement contre cette lecture d'une réélaboration du sujet, du concept de sujet. Et puis, ce temps qui finalement, je pense, est quand même encore en chantier, qui reprend des questions très classiques d'ego, du « je, tu, il, nous », mais à partir justement du système des pronoms. C'est pour ça que je voulais insister à ce point sur Benveniste, c'est que finalement, on sort des prismes qui restaient, je crois, ceux d'Alain Renaud ou d'Alexis Filonenko, et qui reste celui d'Habermas en un sens. On sort de ce modèle, de cette compréhension en termes de communicabilité pour proposer une subjectivité concrète en chantier, mais à partir de ces expressions et à partir notamment de cette question expression-description. Je ne fais pas des comptes rendus de mes états d'âme, mais comment je vais complexifier le modèle du rapport que j'entretiens avec moi-même et de quel ordre il y a un rapport qui serait de l'ordre de l'immédiat. Donc c'est ce que Wittgenstein catégorise par le terme d'aveu. Est-ce qu'il y a des expressions qui traduisent d'un point de vue langagier, qui sont simplement une traduction du cri, par exemple. Hein, et on doit comprendre ensuite nos expressions langagières sur ce modèle expressiviste. Ou est-ce que l'expression au sens le plus naturaliste du terme ne peut pas être pensée en continuité avec ce que j'appelle la connaissance que j'ai de moi-même? Évidemment, je pense que les approches les plus intéressantes, elles nient cette continuité. C'est pour ça que Moran, par exemple, insiste beaucoup. Il y a un autre auteur qui est à Chicago qui a eu une importance vraiment importante, c'est David Finkelstein, qui a écrit un livre sur l'expression et l'intérieur, dans lequel lui, il a critiqué, il a renvoyé dos à dos deux modèles. Un modèle qu'il nomme détectiviste, et vous allez dire que c'est un peu de la scolastique en isme, mais c'est intéressant parce qu'il a vraiment ce modèle de tentant, cette tentation de concevoir le rapport à soi sur le modèle d'une détection interne, à la fois au sens primaire d'un œil de l'esprit qui pourrait savoir de façon certaine ce qu'il en est de vous, et de façon plus sophistiquée, la manière d'un détective et plus d'un détecteur, d'une façon privilégiée par rapport à ce que les autres peuvent seulement décrire ou deviner de vos états intérieurs. Donc il y a cette critique du détectivisme et puis aussi la critique de ce qu'il appelle, lui, constitutivisme, c'est-à-dire d'une compréhension de la connaissance de soi qui est toujours déjà pensée sur le modèle de la constitution, donc d'une recompréhension, d'une réinterprétation, d'une réélaboration. Et donc l'un et l'autre, donc Finkelstein et Moran, essayent de proposer une compréhension de l'expression qui rompe avec le naturalisme du cri, mais qui ne soit pas de l'ordre de cette détection interne, de cette idée d'un moi spectateur de lui-même.
Est-ce que vous avez des questions ? Je pose une question, mais vraiment absurde, parce que c'est pas. Mais dans la troisième voie, parce que vous avez décrit, alors je me souviens même plus où on en était, mais il y avait la passivité d'un côté ou l'agent de l'autre, enfin, il y avait deux modèles, et pourquoi pas alors un agent inintentionnel ? C'est-à-dire qu'on puisse réintroduire dans la subjectivité ce qu'elle fait, y compris sans le savoir ?
Oui, alors ça, c'est sans doute la voie la plus... c'est déjà dans la passivité de dire, d'introduire des couches ou des limites de l'intentionnalité. Mais du coup, ça reste une approche... ceux qui défendent ça en France, par exemple, ils sont plus convaincus par l'approche de Cavell, hein, donc par la dimension passive, donc par la critique de cette volonté de comprendre le rapport à soi sur le modèle de l'agentivité ou d'une position délibérative qui leur paraît trop constituante. Donc à ce moment-là, je ne sais pas si ça fait une quatrième voie ou si c'est pas simplement au fond ce que Cavell nous dit à propos du désir de couche, de pas seulement de passivité mais d'opacité à soi qu'on ne peut pas penser sur le modèle d'une stance délibérative. Donc je crois que, si vous voulez, au fond, je pense qu'il y a deux très grands modèles. Il y a un modèle qui repense l'autorité en première personne. Les deux grands modèles sont d'accord sur la critique. Critiquer le soi comme un spectateur impartial, comme un œil intérieur, etc. Mais il y a donc la lecture un peu Anscombe, Descombes, Moran, qui dit « si nous avons besoin d'un concept de sujet, pour que ce concept soit opératoire, il faut que ce soit un agent ». Et alors, du coup, quand il y a des couches effectivement inintentionnelles ou des dimensions de passivité, ça ne définit pas la sphère de ma responsabilité. Et donc, au fond, on ne peut pas intégrer ces aspects du soi dans une problématisation morale de ce dont nous avons à répondre. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, ils vont reconnaître cette part d'opacité, mais ça ne sera pas le modèle, en tout cas le concept de sujet dont nous avons besoin pour rendre compte de la personne, en fait, si on revient à persona au sens moral et juridique du terme. Alors que Cavell, lui, va plutôt insister sur exactement ce que vous dites, hein, sur les limites de l'intentionnalité, sans pour autant faire du rapport à soi quelque chose de l'ordre d'un regard intérieur, mais lui va le tirer beaucoup plus dans un sens freudien.
Oui, c'est ça, mais en fait, quand je parlais d'un agent inintentionnel, il y avait quand même une insistance sur l'agent.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il fallait bien imputer, parce que je partais aussi de la distinction du locutoire et de l'illocutoire, et je me disais qu'on pouvait peut-être confondre les deux, c'est-à-dire penser le locutoire à partir de l'illocutoire, c'est-à-dire à partir de ses effets, d'un discours dont la vérité serait livrée par ses effets, et à ce moment-là, je suis ce que je fais, je suis ce que je dis, en quelque sorte, je suis révélée par une action, que j'en sois maître ou pas, c'est presque un peu moins la question. C'est pour ça que je parlais d'un agent inintentionnel, qui est à la fois imputable et pas maître de lui-même. Moi, ça me gêne pas de penser les deux à la fois. Personne, ça me gêne pas. Mais bon, c'est compliqué. C'est comme si, je disais que la vérité de mon discours était simplement dans l'illocutoire, c'est-à-dire dans l'effet qu'elle vous fait, et je suis imputable de cet effet que je produis, quand bien même je ne l'ai voulu ou pas, il dit la vérité de mon discours.
L'effet, du coup, ça serait le perlocutoire. Donc,
Le perlocutoire, voilà, ouais, c'est ça.
Ça paraît idiot de ne pas avoir pensé à cette possibilité-là, c'est vrai. Je réfléchis à cette... C'est-à-dire que là, du coup, votre question, elle revient à... Parce que moi, j'étais dans des modèles du soi. Comment se représenter, après toutes ces critiques, le sujet. Mais j'étais plus dans dire la vérité ou dire...
Mais c'est pareil, en fait. Enfin,
oui, bien sûr. Et puis, toute cette tradition s'érige contre la possibilité de distinguer. Ce qui m'apparaît le plus intéressant dans cette littérature sur l'autorité en première personne, c'est ça. C'est-à-dire, il n'arrête pas de dire que, au fond, ça permet de donner un sens nouveau à l'autorité, puisque c'est vraiment... la façon dont on va caractériser la relation que vous avez à vos propres mots. Donc il y a bien quelque chose de l'ordre d'un privilège dans la relation à soi, mais qui exclut aucunement l'aliénation, l'étrangèreté, l'inquiétante étrangeté, etc., etc. Et alors, à ce moment-là, oui, on peut très bien penser l'action. Mais à partir du moment où on dit le sujet, c'est ce qui se réalise, consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, à ce moment-là, on retombe dans ce que dit Descombes, malgré tout. C'est-à-dire, quand il cite Hegel, le sujet, c'est la réalisation de ses actes. Et donc, la dimension inintentionnelle, du coup, elle n'est plus prise en compte. Si ?
Je pense de un acte...
C'est-à-dire, vous disiez, l'acte, pour qu'il soit imputable, il faut qu'on puisse...
Non. Justement, non. Je veux dire, je peux vous imputer un acte, malgré tout, que vous n'avez pas voulu. Si, il faut qu'il soit. C'est pour ça que je parlais du perlocutoire. Mais je sais pas comment... Non, mais c'est mon propos qui n'est pas clair. C'est-à-dire, je peux très bien vous imputer l'effet que me fait votre discours, que vous l'ayez voulu ou non, et vous êtes obligé rétrospectivement d'assigner ce que vous avez dit.
Oui, c'est-à-dire que vous dites c'est encore pire.
C'est a posteriori, vous êtes défini a posteriori dans vos intentions, enfin on dirait la révolution bolchevique, parce que c'est un peu, c'est un peu ça, c'est les procès de Moscou là. Vous êtes obligé de vous imputer rétrospectivement les effets de vos actions, y compris ambigu. Mais c'est juste pour dire je suis pas sûre que ça ait un rapport vraiment.
Ça veut dire que notre parole et notre engagement, mais qu'on est encore plus responsable.
Ah bah oui,
responsabilité encore plus écrasante.
Mais pas plus maître.
Que
Vous êtes entièrement responsable de ce dont vous n'êtes pas maître.
Mais ça, il l'accorde. Enfin, je veux dire, du coup, tous les auteurs. Benveniste, il ne se prononce pas là-dessus, puisqu'il est linguiste. Mais en tout cas, Austin comme Wittgenstein, ils accordent tout à fait cette part. Si ce qu'on appelle inintentionnel, c'est ça, oui. Après, je pense que la question des limites de l'intentionnalité, elle peut donner lieu à d'autres prolongements. Et là, qui peuvent être juste des questions aussi de philosophie de l'action et qui ne passent pas nécessairement par les mots. Mmh.
C'est la vérité qui me donne du fond. Oui.
Pardon, mais je voulais juste dire, j'ai l'impression qu'on peut penser que l'identité vient de l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle soit vraiment donnée par le langage des autres. Et au fond, vous avez parlé d'assujettissement. Alors moi, je pensais qu'il y avait toute la petite boulevard Foucault là, qui s'ouvrait, lentement qui finit d'ailleurs sur le concept de performativité, mais remis par l'auteur.
Oui, bien sûr.
Essentiellement par l'effet que l'autre sur les autres. Pas forcément d'ailleurs par celui que je reproduis. Et je me demandais si ça pouvait se rattacher, parce qu'elle lie un peu Austin. Il y a l'idée peut-être que d'ailleurs, à la fin, le sujet n'est plus du tout responsable, ou en tout cas n'a pas la main au début sur ce qu'il est, et qu'il va devoir se réapproprier par la suite ce qu'il était au fond. Donc, moi j'avais l'impression que la dernière hypothèse, c'était que le sujet, c'est quelque chose vraiment qui naît en dehors de nous. Hein. Et que c'est, ou alors, façon Foucault, c'est une formation discursive, mais que ça dépend du langage, ça dépend des discours qui vont nous être donnés à disposition ou incorporés au départ.
Sous
la condition qu'ils soient réappropriés. Mais au fond, il est effectivement un postérieur.
Ça dépend du rapport de l'économie, du savoir.
Oui, bien sûr, et puis de résistance, etc. Mais moi, je sais.
Oui, mais c'est le. Ce que Cavell dit justement, c'est que finalement, les prolongements les plus intéressants d'Austin n'ont pas été en philosophie au sens étroit du terme, mais dans la théorie littéraire et dans les gender studies. Et je pense qu'il pense effectivement à Butler. Et elle a tous les passages sur l'offense, sur le. C'est effectivement des aspects que Butler s'est réapproprié. Simplement, je ne suis pas sûre. Il va y avoir un livre là qui va sortir justement sur Wittgenstein et Foucault, donc il travaille beaucoup sur ces questions. Il se trouve que donc le colloque avait eu lieu à la Sorbonne il y a 2 ans, en même temps qu'un très grand, je trouve, hommage qui avait été rendu à Descombes en présence de Charles Taylor. Et du coup, l'enjeu, moi, m'était vraiment, c'est pour ça que j'ai travaillé ensuite sur ces questions, l'enjeu véritable me paraissait être la question du nous. C'est-à-dire, il me semble que les limites du rapprochement et donc du coup de la compréhension du sujet individuel ou collectif qu'on défend, c'est celui de savoir si on va assumer et revendiquer une identité en nous qui s'indexe sur, comme le dit Descombes, sur la nation. Politiquement, c'est pas en soi conservateur, mais ça veut dire qu'on fonde, comme dit Rousseau, un nous sur une histoire politique commune. Si je caricature volontairement. Et quand moi j'ai essayé de présenter ce modèle-là du nous en l'opposant à celui de la promenade, peut-être que vous connaissez ces textes de Margaret Gilbert qui se fondent délibérément sur la sociologie de Zimmel pour donner en fait une à l'intentionnalité collective un sens qui part des phénomènes collectifs qui paraissent les plus éphémères, comme une promenade qui n'est pas absolument pas décidée. Et donc, elle travaille à partir de ce paradigme de la promenade pour penser un nous qui, justement, est de l'ordre d'un assentiment ou d'une décision, mais où le contrat peut toujours être rompu. Donc, il n'y a pas la lourdeur d'une histoire ou d'une culture commune. Et le dernier modèle auquel j'avais pensé, c'était celui de Searle, mais où, en fait, dans la construction de la réalité sociale, il n'y a que des individus, donc il n'y a jamais de nous. Donc ça, c'est facile de montrer que c'est une forme de solipsisme méthodologique qui est d'ailleurs revendiquée et qui est extrême dans sa position. Mais justement, quand j'ai essayé d'accommoder Descombes avec des textes de Michel de Certeau sur la prise de parole, sur ce qui s'est passé en 68, sur la formation d'un nous qui du coup se crée, qui naît, qui n'est pas déjà institué, les objections qui sont assez pertinentes, je pense, qui viennent du camp Foucault et Butler, c'est ce modèle du nous reste trop conservateur. Et donc, la subjectivation ne peut pas se comprendre sans toujours les procédures d'assujettissement qui en sont. Et donc, du coup, si vous voulez, les réponses que j'ai reçues à ce que j'avais présenté comme une proposition, en contestant par Certeau, qui du coup fait un être, comme d'ailleurs Guillaume Leblanc, selon ses textes, hein, qui fait se rencontrer, du coup, Wittgenstein et Foucault, et qui était intéressant pour ça, au sens où il y avait un modèle de la parole qui était intéressant, parce qu'on a pris la parole comme on prend la Bastille, donc qu'il y avait un nous naissant, émergent. Enfin, je suis plus du tout claire, mais dans les objections qui ont été données à mes arguments, il y avait le nous féministe, le nous que on pouvait pas enrégimenter comme ça une résistance.
C'est-à-dire que le nous serait forcément résistant.
C'est-à-dire que le modèle que je tirais de Benveniste d'un jeu élargi. Il rendait toujours, d'une certaine façon, mais ce n'était pas du tout mon intention, hein, justice aux porte-paroles et pas à la minorité qui n'est pas visible ou qui n'a pas la parole ou qui ne peut pas la prendre, etc. Donc, du coup, c'est là qu'on m'a dit on ne peut pas pousser des combes jusqu'à ce point. Et c'est là que Butler et la tradition foucauldienne reprend tous ses droits. Mais je suis en train de préparer un dossier là-dessus qui va paraître. Je ne suis pas sûre que ce soit si simple. C'est-à-dire, je ne suis pas sûre que Butler ou Foucault aient le dernier mot là-dessus. Mais en tout cas, le volume sur lequel ces questions nous ont beaucoup travaillé, là, il va paraître chez Vrin. Et les Foucauldiens qui l'avaient organisé à Paris 1... Donc, un Italien, Daniele Lorenzini et Pascal Gillot, étaient intéressés justement par la confrontation des deux modèles. Hein. C'est quasiment ça. Ça s'appelait subjectivité et politique, et c'est ce qui avait suscité le colloque. Moi, je continue j'ai proposé dans ce volume un texte où je force vraiment à l'extrême le rapprochement entre Wittgenstein et Foucault. Et j'avais fait un séminaire à Ulm il y a 3 ans sur cette question, sur la question du pathologique et de la folie chez Wittgenstein, qui n'a jamais été pris en compte par ses interlocuteurs pour justement voir jusqu'où on pouvait pousser le parallèle avec une approche foucauldienne, justement pour la question des normes. Et j'ai eu le sentiment que qu'autant les rapprochements avec Canguilhem sont pertinents, autant la problématique des normes chez Foucault, elle est tellement glissante en un sens. Et je crois que c'est ce que montre assez bien le livre de Stéphane Legrand là-dessus. Et ça me semble être une question qui est pas réglée encore.
Parce que, en fait, je ne sais pas si on a fini ou pas. J'ai l'impression que ce que vous suggériez, c'est que le nous, c'est toujours une prise de parole d'un porte-parole, mais qui, du coup, peut ne pas être représentatif, c'est ça ? C'est le problème que vous relevez dans cette formation communautaire.
Oui, c'est ce que dit. C'est le modèle. En fait, je m'étais inspirée d'un texte de Norbert Elias qui parle des modèles de configuration genou et qui propose de dépasser l'opposition méthodologique de l'individualisme et du holisme en considérant justement ces modèles de configuration. Et il dit on peut utiliser les pronoms personnels comme des révélateurs au sens photographique du terme pour justement voir. Comment une philosophie ou une sociologie donnée articule ces deux autorités. Enfin, les deux autorités, c'est deux moi, mais il le dit quasiment en ces termes. Et du coup, c'est Benveniste qui dit que le porte-parole peut toujours usurper la parole et qu'on est forcé de concevoir l'énonciation en nous sur le modèle d'un jeu élargi, ou d'un jeu dilaté, comme il dit. Mais ce que j'essayais de voir, c'était si, par exemple, ce que Descombes a défendu dans Les embarras de l'identité, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un sens positif de cette autorité en première personne, il fallait que le « nous » soit, non pas institutionnellement établi, mais que le sens politique de cette prise de parole en « nous » puisse être enraciné dans une histoire commune. Et ça, Descombes l'appuie. Alors, il a été attaqué par Stéphane Haber là-dessus à partir des embarras d'identité, toujours dans le même type d'objection qui ratifierait ce qui est toujours déjà institué, mais qui ne permettrait pas à des nous d'émerger. Mais je pense que les critiques de Stéphane Habert ne portaient pas du tout. C'est-à-dire, je pense que le Rousseau du nous que Descombes défend, il est tout à fait valide et il n'est pas du tout ni réactionnaire ni conservateur. Après, il me semble que Butler, enfin que les héritiers de Foucault aujourd'hui qui s'intéressent à la prise de parole de ceux qui n'ont pas la parole, c'est des problématiques assez différentes.
Oui, c'est-à-dire.
Et moi, je n'ai pas encore, j'arrive pas à voir comment. Par exemple, Cavell, il s'appuie littéralement sur surveiller et punir. Sur la capillarité du pouvoir. Donc lui, ça ne lui pose aucun problème d'apprivoiser Foucault dans le cadre des jeux de langage et du modèle de la subjectivité dont j'ai parlé. Mais justement, c'est une façon aussi de neutraliser beaucoup de l'assujettissement.
Est-ce que les enjeux pour Butler, c'est de dire nous, enfin, de mon souvenir de tous les mangeurs, c'est de pouvoir dire les femmes en général, tout en ne définissant pas a priori ce qu'est une femme, sans essentialiser en fait le sujet. Donc c'est un nous très ouvert. En fait. Et pour le coup, ce qui l'intéresse après, c'est les enjeux d'intersectionnalité, c'est-à-dire comment différentes communautés peuvent se retrouver dans un même combat, tout en ne s'institutionnalisant pas dans une forme particulière. Donc il y avait vraiment des enjeux à la fois de croisement et puis parfois de décroisement aussi. Mais c'est supposé rester assez mouvant, puisqu'il faut de toute façon s'organiser pour une lutte, en ne se faisant pas complètement serrer dans les catégories qui seraient du coup le retour du pouvoir, etc. Voilà.
Moi, je sais pas, je pense que du coup l'enjeu du débat c'est sur, sur institution du sens et institutionnalisation de la parole.
Donc la définition d'une communauté n'est pas forcément pour enjeu la définition d'une.
Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est ça le.
Bon, il est 17h30, peut-être que c'est raisonnable de s'arrêter là, de remercier encore une fois Élise Marouche pour cet exposé.
Merci.